la difficulté, vous voyez, mais c'est, vous l'avez compris, et j'ai essayé de régulier là-dessus, et ça a d'ailleurs régulier nos deux intervenants. Sur la réalité de l'histoire, quand je vous ai. Est-ce que c'est allumé? Je ne sais rien. Quand j'ai posé hier la question toute bête, est-ce que Jésus avait vu Philippe de l'Espagne? Je vous posais la question, est-ce que nous pouvons nous contenter d'une lecture hors sol? Vous voyez ce que j'appelle une lecture hors sol? On lit avec beaucoup de bonheur quelque chose qui nous apporte, qui nous stimule l'esprit, etc., etc. Et en final, on pose la question, à quel siècle? À quel siècle? Vous voyez? Alors, bravo pour votre première question, mais qu'est-ce qui s'est passé après la persécution d'Antiochus Épiphane? Ouf! Tout renversé! Après la persécution d'Antiochus Épiphane, arrivent au pouvoir les rois Mattathias, ils ne sont pas d'ascendance davidique, ils ne vont pas chercher à remonter la piste jusqu'à David, ils ont foutu perdu le monde. Ils sont nommés par les Grecs, on va acheter la fonction de prêtre, on va l'acheter aux Grecs. Est-ce que vous voyez que ça va? Alors, est-ce que c'est un changement de seuil après la persécution d'Antiochus Épiphane? Changement de culture, oui. Changement de référence, oui. Changement de seuil, on n'est pas plus monothéiste après qu'avant. On est monothéiste. Par contre, entre Josias, par lequel j'ai terminé ma petite nomenclature des rois hier, entre Josias et le chroniste, il y a une révolution. À quoi attribuer cette révolution? La culture change. Je peux dire ça, hein. La culture a changé. Nos exilés à Babylone, ils en avaient marre de voir des statues partout. Et donc ils se sont dit, allez, une bonne fois pour toutes, passons des statues à notre Dieu, à un Dieu unique qui ne serait plus marié, qui serait... C'est une explication, j'allais dire un peu hors sol, du passage du polythéisme au monothéisme, enfin du polythéisme, de l'énothéisme. Alors c'est peut-être ça qu'il faut travailler, quelles sont les racines de cet énothéisme, jusqu'où il va, pourquoi il fait ça? Alors si vous prenez la petite liste que je vous ai donnée hier, vous repérez dans la colonne en dessous des rois d'Israël, vous ne l'avez plus, mais ce n'est pas grave, moi je vais vous donner un petit peu, vous avez trois événements principaux, vous voyez, que j'ai mis en avec des petits points de suspension. Trois événements principaux qui vont activer les remises en mémoire. Le Nord, quatre fois plus... Qu'est-ce que je dis quatre fois? 10 fois plus riche que le Sud, avec au milieu, avec les deux Joram, une petite cohabitation qui n'amène que du mal, puisque ça va amener Jézabel, Athalie, etc., cohabitation, c'est là que le Sud va transformer ces dieux, c'est le sud a des dieux, chaque tribu a son sanctuaire. Arad, dont on vous a parlé tout à l'heure, c'était un sanctuaire du sud. Gabaon. Où vous le mettez, Gabaon? C'est la base du royaume de Saül. Vous voyez pourquoi le chroniste va en faire abstraction, Saül? Et à Gabaon, qui est-ce qui va être là? Salomon. Allez. On fait du hors-sol. Surtout, il ne faut pas qu'on se rappelle que Gabaon, c'était le fief de Saül. C'était les premières implantations solides. Ça va? J'ai peur de vous noyer, non? Alors, je vais revenir à tout ça.
Vous l'êtes déjà noyé.
Comment?
Vous l'êtes déjà noyé.
Vous êtes déjà noyé. Non, ah non, non. Bon, autrement dit, dans les mémoires et dans l'archéologie, dans les mémoires vérifiées en archéologie, il y a une implantation proche de Jérusalem, mais distante quand même. Entre Samarie et Jérusalem, il y a Sichem et Gabaon, ou Gibéa. Ah ben, si je change de lettre à chaque fois, ça va. On va repartir dans le Midrash. Hein. Bon. Hein. Or, c'est le fief de Saül. Vous avez vu avec Philippe comment Saül est éliminé, hein, par les chroniques. Par le chronique. Bon. Donc, il y a l'horizon des mémoires de la maison d'Omri, puisque tout commence avec la maison d'Omri, avant on ne sait pas écrire. Et les mémoires de la maison d'Omri, c'est Élie, Élisée, Jéhu. Voilà, les trois grandes étapes. Élie, avec Acab, Élisée, qui continue jusqu'au sacre d'Azaël, et avec Azaël, la création de Dan, où on va mettre une des origines de la scission entre le nord et le sud. Nous, la scission entre le nord et le sud, on la voit dans Jéroboam. Ça va? À l'époque de David, enfin du successeur de David. Bon, mais ça, on est dans le hors-sol des mémoires. Quand on fait de l'archéologie, on se dit, tiens, Dan n'existait pas avant Azaël. C'est une vieille ruine. Ah, donc c'est à l'époque de Jéhu, puisque Azaël, c'est le nom de chez nous, Jéhu, c'est le nom de chez nous, d'Azaël, qui est de Damas. C'est la puissance de Damas. Alors on ne va pas se mettre dans les héros de notre pays, on ne va pas se mettre le héros de Damas ou le héros assyrien ou babylonien. Ben non. Alors, le héros de chez nous qui correspond à cette période-là, c'est Jéhu. Jéhu qui massacre toute la dynastie dans le nord et dans le sud. Avec lui, ouf, Baal est mort. Est-ce que ça veut dire qu'on est au monothéisme? Pas du tout. C'est pas parce qu'on n'a plus Yahvé Baal qu'on ne peut pas avoir Yahvé Astarté, Yahvé Hachéra, qu'on va en faire un célibataire. Ça va? Bon, quel va être l'élément déterminant entre Jéhu et Josias qui rédige? Ah, vous voyez que maintenant tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est Josias qui, qui, qui rédige. Moi, je le dis depuis 20 ans, mais enfin, un peu plus, vous voyez ça. Maintenant, on est tous d'accord là-dessus. Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ce Josias? Eh bien, il n'y a pas grand-chose. Il y a Ézéchias, dont on vous a dit tout à l'heure que c'est lui qui défaisait, qui démantelait tous les sanctuaires parce qu'il pouvait y avoir deux bémotes, deux images d'Adonai. Hein? Il pouvait y avoir deux images d'Adonai dans ce temple. Alors, s'il a deux images d'Adonai à Arad, Ézéchias, il va rassasier. Il va dire non, c'est pas possible. Autrement dit, entre Jéhu, qui supprime le Baal dans le nord et dans le sud, et Josias, qui écrit, il y a Ézéchias, 701, et Sennachérib, l'Assyrien qui nous faisait peur depuis Salmanassar, depuis Karkar, depuis Akkab, hein, l'Assyrien, il est déjà menacé par Babylone. Et l'Assyrien repart et il laisse Sennachérib et Manassas, il laisse Jérusalem tranquille. Enfin, tranquille, après avoir été largement payé pour son retrait. Ézéchias arrive avec ça. Il a sauvé sa capitale. Il a perdu Lachish. Il a tout perdu. Il a perdu les sous du temple. Il a perdu, enfin, du temple. Du petit temple tribal de Jérusalem, du petit village. Jusque-là, il n'y a pas de grand temple. Le Salomon, vous sentez que c'est un Salomon hors sol, jusque-là. Vous ce que j'appelle hors sol, ça veut dire sans réalité historique. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'il va faire contre Ézéchias, qui a sauvé sa capitale, et Josias, qui écrit son credo de l'Exode, tenez-vous bien, un Exode, rassemblant 600 000 fantassins. Qu'est-ce qui s'est passé entre Ézéchias, qui a sauvé sa capitale, et puis Josias, qui écrit ses mémoires, son challenge à Josias, comment faire pour faire une unité avec un petit dixième de population du sud et 9/10 de population qui sont des pièces rapportées? Heureusement, Ézéchias a liquidé tous les sanctuaires, à la fois baalique et tous les sanctuaires où il y avait deux bémots. Est-ce que c'était déjà, ou de Bamoth, faites-le comme vous voulez, est-ce que c'était déjà le monothéisme? C'est une piste vers l'énothéisme. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire atterrir au credo de l'Exode? Chute de terre. La capitale de l'Égypte s'effondre. Vous avez les dates sur le papier que je vous ai mis. Et s'effondre pendant le règne de Manassé. Manassé pour Finkelstein, pour les juifs que je fréquentais, Manassé c'est Salomon. Ben, c'est le Salomon, pas hors sol, le vrai. Celui qui a fait la fortune, je vous le rappelais hier, hein, vous vous souvenez, hein. Celui qui a fait la fortune, qui a refait les finances qu'Ézéchias avait fichues par terre pour payer la dette du retrait de Sennachérib. Bon, donc on a un salopard de première classe, et là on va pouvoir écrire tout ce qu'on veut sur les ombres du règne, sur les 1000 femmes, sur les... On va couvrir le Manassé d'un noir pipi pour pouvoir mettre en valeur Ézéchias qui a ratissé tous les sanctuaires et pour pouvoir mettre en valeur le successeur Josias, qui lui va rassembler pour la première fois dans un temple toutes les traditions des tribus. Ézéchias avait fait le ménage. Il avait supprimé tout ce qui était idolâtrie. Il n'avait pas les finances pour refaire un temple. Il n'y avait plus de sous, il n'y avait plus un radis. Qui est-ce qui va utiliser les finances de 40 ans de règne magnifique de Manassé, qui a réussi à ratisser toutes les richesses entre l'Arabie et l'Égypte, un couloir de chameaux, une route commerciale, une des premières grandes routes commerciales, parce qu'on a domestiqué le chameau. Et donc, on peut maintenant aller dans le désert. Voilà. Et qui est-ce qui se paye les droits douaniers de ce commerce? La Syrie. Et du coup, Manassé, cul et chemise avec la Syrie, quitte à payer très fort les bretelles. Mais n'empêche que le pays se retrouve en pantalon. Le pays a retrouvé ses bases. Et on va donc pouvoir reconstruire un temple. Et on reconstruit à ce moment-là le temple. Alors, le temple de qui? Ah. Ézéchias et le Sud se savent héritiers du premier fondateur de Jérusalem. Ouais. La Jérusalem du temps de Kusubek, 19e siècle, vous avez tout ça là-dedans. Hein. Vous pouvez vous en servir, je l'ai mis là pour que vous puissiez le consulter de temps en temps.
Voilà. Ça sera mieux sur référentiel.
Ça sera mieux sur référentiel, oui. Bon, alors vous voyez, on a, le Sud a une antiquité dans les mémoires. Kusubek et la... Aménophis, il a un David, petit policier du désert, qui a fini par conquérir la ville de Jérusalem. Bon, eh bien, on va suivre Ézéchias, c'est lui notre chef dynastique. C'est David qui prend la tête de tout notre passé. Salomon, ben oui, il faut bien que notre temple il ait aussi la même antiquité que le roi. Qui est-ce qui nous a accumulé toutes les richesses qu'on a vues tout à l'heure? Qui est-ce qui a accumulé toutes les richesses des conquêtes de David? C'est pas les conquêtes de David, c'est Manassé qui a adoré le pognon. C'est Manassé. Ah ben c'est lui, Salomon. Ah oui, dans le récit des rois, mais on ne va pas se trimballer ça toute notre vie. Il va falloir corriger cette lecture de Josias. Vous voyez, il va falloir redorer le blason de ce Salomon et de son temple. Les chroniques vont s'y employer magnifiquement, vous avez vu. Saül à la poubelle, l'Exode à la poubelle. Ah. Ça m'amène à une question. Pourquoi on a foutu l'Exode à la poubelle?
Pas tout à fait, parce que il a rendu du temple, tout ça, il saurait faire.
Deuxième version. Pourquoi se rattache-t-on à Moïse et pourquoi mettons l'Exode à la poubelle?
Mais il a répondu quand même.
Il a répondu.
Il a c'est répondu. Pour éviter de tout centrer sur le nouvel exode, le retour des exodes. C'est ce qu'il a répondu.
Non, pourquoi on dit le chroniste n'accepte pas la version, la sortie d'exil, c'est un nouvel exode. Pourquoi on met l'exode à la poubelle?
Parce qu'il
ne tenait pas beaucoup sur sa quille.
Qui
L'Exode. parce que l'Exode est l'acte de foi majeur de la Bible à l'époque de Josias, le grand croyant qui a réussi à rassembler tous les différents credos, celui de Gédéon, celui de Déborah, tous les credos du Nord, les credos du Sud, Beersheba, Arabe, qui est-ce qui a rassemblé tous les credos en se disant, bon, il faut mettre tout ça en un seul credo. Et un credo qui ne soit plus victime des trahisons comme il l'a été depuis le départ. Trahison au temps d'Akab qui épouse Jézabel et du coup on fait le jeu des Phéniciens. Trahison des différentes capitales de Tirsa, de Samarie. Trahison, alliance. On essaie de refaire une alliance avec le Sud, ce qu'on appelle la guerre syro-éphraïmite, un jeu d'alliance avec les voisins qui se cassent la figure. Comment se casse-t-il la figure? Le Sud, Akkad, pour éviter de rentrer dans le baalisme imposé par le Nord, le Sud va chercher l'alliance avec l'Assyrien qui a déjà conquis Damas. Alors on va visiter le roi assyrien à Damas et on lui ramène l'autel au temple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Josias, comment faire que ce jeu de trahison permanente, ces alliances néo-assyriennes, les jeux de combat, disait Thomas Römer là-dessus, tous les combats se terminaient par des alliances où on prenait le dieu vaincu et on le mettait à ras du sol et le dieu vainqueur, hop, il prenait la tête de la hiérarchie. Comment en terminer avec ça? Voilà le défi de Josias. La grâce de Dieu, pas hors sol du tout. Pas visionnaire du tout, pas spirituolo-gazeuse du tout. La grâce de Josias, la chute de Thèbes, écrasée. L'Égypte a été battue, Jérusalem est sauvée. Comment rapatrier dans le temple cette victoire? Vous avez tous dans vos mémoires 3, 4, 5, 10 exodes d'Égypte. On ramasse ce schème fondateur. Nous avions été par la famine esclaves en Égypte et nous revenons d'Égypte et voilà. Et tous ensemble, on reprend les chemins du désert. Jusqu'à pouvoir s'implanter après 40 ans, mais oui, jusqu'à pouvoir s'implanter. Bon, Josias va rassembler tous les textes religieux de ces tribus qui avaient tous un passé plus ou moins identique d'un dieu du père qui suit la tribu. On rassemble tout ça. Eh bien, le Dieu du Père qui suit la tribu, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, tous ensemble, 600 000, ça montre bien qu'on était tous ensemble, allez, alors que les exodes sont été vécus par chaque famille à son propre détriment ou à son propre avantage. Et voilà, premier article du credo. C'est notre Dieu du Père qui nous a fait sortir d'Égypte et nous a ramenés sur notre terre. Et maintenant, dit Josias, on va refaire la conquête du Nord. On va reprendre notre territoire. Et vas-y, Josué, tu nous ramènes tous les antiques victoires. Victoires qu'il avait d'autant moins de mal à faire que ces villes-là étaient ces villages-là étaient déjà effondrés depuis belle durée par les peuples de la mer. Bon, eh bien, tout ça va fournir notre credo, Josué, et rentrer dans la terre promise. Pourquoi Josué et pas Moïse? Ah, on vous l'a dit tout à l'heure. Ben, que voulez-vous faire une unité comme ça? Si le pauvre Josias disait, maintenant c'est ma réforme qui va prendre la tête de tout, imbécile, ça ne marchera jamais. Il faut que ce soit le Dieu commun qui prenne la tête de tout. Où il pouvait habiter le Yahvé commun? Excusez-moi, le Yahvé, moi j'ai un Dieu incarné, alors... Puis qu'il a pris visage, qui s'est appelé Jésus, et qu'il peut l'appeler comme on veut. Mais je sais bien que ça ne fait pas plaisir. Donc, où ça va? Oui. Comment on va rassembler tout ça? Comment on va, au nom de Yahvé? Ben, Yahvé, c'est celui qu'on adore chez les Madianites. C'est un dieu Madianite. Ben, il fallait bien le trouver quelque part, Yahvé. Madianite. Et les pays de Madian, c'est tout au sud, bien en dehors de tout. Eh bien, Moïse, il avait un beau-père madianite, du pays d'Yahvé. Bon, eh bien, c'est le Dieu extérieur aux tribus, mais qu'on a tous comme Dieu du désert, comme Dieu du Père. Ça va faire l'unité. Voilà. Et puis en même temps, ça nous donne un Moïse, législateur, à la place de Josias. Josias n'a pas besoin de dire « Ma réforme, c'est moi, et vous allez voir ce que vous allez voir. » Il peut mettre sa réforme dans un credo en l'attribuant à un Moïse qui nous révèle Yahvé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Le temple, ben, le temple, on a des sous pour construire. Comment on va montrer qu'il ne vient pas de Manassé et qu'il ne vient pas de nos mémoires tribales où nos dieux étaient tout ce qu'on veut? Eh bien, comme David, le David de Josias et d'Ézéchias remonte loin, 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 le fils de David, Salomon, avec toutes les turpitudes et les crimes qu'on lui connaît et tout ce qu'on veut, c'est lui, ce Salomon, qui nous a donné le temple. Alors après, bien sûr qu'on va faire des arrangements. Ce temple-là ne peut pas venir de ce criminel Manassé. On a un Salomon sans péché, riche, qui vient construire le temple. Ah, vous avez les chroniques. Ça va? Vous sentez bien que c'est une littérature qui n'est plus hors sol du tout. Bon, on arrive à Babylone, on a ce credo monothéiste sur lequel Josias compte. Surtout, regardez bien, 609 Megiddo, c'est 600 combien la chute de la Syrie, de Ninive? Quelques années avant la grosse défaite de Josias, non, mes départs, ça me brouille. Hein, voilà, c'est parce que j'ai ma mémoire qui maintenant prend du temps pour... Mais je le bon quand même. Bon. Hein, 612, 609, 609, chute de Megiddo. Qu'est-ce qui s'est passé? On venait de décider que notre Dieu n'était plus, ne suivait plus les alliances de vainqueur à vaincu. C'était lui le grand arbitre, le seul arbitre. Autrement dit, on faisait table rase de tout ce qui nous avait divisé entre tribus. On faisait table rase de la guerre syro-éphraïmite. Allez, tout ça est pardonné, on n'a plus qu'un seul Dieu. Et c'est un Dieu qui dirige tout, vainqueur et vaincu. Donc les vaincus
Vous avez place à la même table que les vainqueurs. C'est notre Dieu qui est l'arbitre de tout. C'est fini les guerres entre tribus. C'est fini. Voilà. On a l'énothéisme, un seul Dieu pour tous, et une même histoire pour tous, par celui qui a écrasé les Égyptiens à Thèbes, et merveilleux, il vient d'écraser Ninive. Et il n'y a plus que Jérusalem qui a droit de cité. Et vous voyez bien que c'est notre Dieu qui est l'arbitre de toutes les alliances, qui est l'arbitre de tout. Alors Josias part à la guerre, il voit que Babylone va attaquer la Syrie. Alors, à cause des alliances, l'Égypte doit bondir, sauver au secours de la Syrie. Josias se dit, prof à Megiddo, je vais bloquer l'armée égyptienne, ils ne pourront pas venir secourir les Assyriens. Babylone va avaler les Assyriens, et Babylone me rendra, puisque c'est moi qui l'a aidé, il me rendra l'ascenseur. C'était la politique la meilleure à faire. Manque de peau, il est tué par des pro-égyptiens qui ne voulaient pas de son credo. Il est tué d'une balle dans le dos au moment où il part attaquer Megiddo. Alors, notre Dieu arbitre de tout, c'est quoi? Si c'est lui qui est l'arbitre de tout et qu'il a perdu, il reste arbitre de tout. Où on va trouver la cause de notre échec? Il n'y a plus qu'une solution. C'est notre faute. Et voilà le credo de la culpabilité qui rentre dans ce jeu d'alliance. Une tuile, c'est qu'on a péché. Une victoire, c'est qu'on a été bon. Dieu, lui, reste l'arbitre de tout. Est-ce que vous voyez le bouleversement complet? On arrive à Babylone. Là, on rencontre un monothéisme. Je suis sûr que, il vous a parlé tout à l'heure de Babylone, je suis sûr qu'on ne va pas tarder à découvrir que la Perse était déjà un monothéisme. Et comme le montrent les études de Pierre Lecoq, que les Achéménides avaient un monothéisme de la lumière, ce que je dis depuis plus de 20 ans. Un monothéisme de la lumière, et Israël, les exilés vont dire, et nous, on a un énothéisme de l'amour. Eh bien, s'il faut choisir notre monothéisme, entre un monothéisme de la lumière et celui de l'amour, on prend celui de l'amour. Voilà, maintenant vous y mettez, oui, maintenant vous y mettez le livre de Proverbes qui commence à se dire, oui, mais l'Égypte, et si jamais, ben, tout ça, on va anticiper tout ça c'est David, tout ça c'est Salomon, tout ça c'est Moïse, tout ça c'est Noé, tout ça c'est Adam. Et vous avez le livre des Proverbes de Marie-Odile, tout ça c'est en Adam. Voilà. La petite période que vous venez de voir, elle n'est pas du tout hors sol. La petite période proverbe et chronique, c'est une belle théologisation, avec beaucoup de doigté, parce qu'on connaissait tous ces textes-là, comme on connaissait toutes les archives des tribus dans les mémoires. Les mémoires sont bien plus importantes que les textes à cette époque-là. On pouvait jouer. Et voilà. Ça vous donne, vous êtes à la veille des grandes persécutions. Antiochus Épiphane. Après ce beau credo merveilleux des proverbes qui remonte, et bravo Marie-Odile, et qui remonte jusqu'à Adam. Et pareil pour les chroniques, qui remonte jusqu'à un Salomon, mais qui est tellement sage et sagesse qu'il est lui aussi préexistant tant qu'on veut, tant qu'on y est. Et je le disais hier, le temple où il y a le marché Rotterdam, lui il est monté à la pensée de... Et Philippe m'a dit, mais oui, à cette époque-là, tout commence déjà à être tellement proche des origines que c'est proche de Dieu. Voilà, et on va pouvoir aborder les Grecs, jusqu'à la persécution d'Antiochus et tout ça, où tout se retourne. Et là, comme disait très bien Philippe hier, devant la persécution, on crie, et ce cri s'appelle l'Apocalypse. Et les gens retourneront au désert pendant que les autres ramassent du fric pour acheter leur sacerdoce aux Grecs et ensuite aux Romains. Changement culturel. On ne passe pas du polythéisme au monothéisme. Par contre, avec le Jésus incarné, on change de sexe. Merci. Est-ce que vous aimez me voir ?